Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Tap 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 qui est là, présenté par Marie Bernanos et Maïlys Génier de l'association Théâtre à la Page. L'association fait son retour radiophonique sur la 90.8 et redonne des couleurs à son ancienne émission présentée auparavant sur Radio Grisivaudan. Commençons donc par nous présenter. Théâtre à la Page, c'est quoi ? En quelques mots, c'est une association qui développe et démocratise l'éducation artistique et culturelle en présentant chaque année une sélection d'œuvres du répertoire théâtral jeunesse réunies autour d'une thématique que les enfants pourront lire en comité de lecture dans leur classe. Et cette année, nous retrouvons les quatre éléments dans nos 8 pièces sélectionnées. Dans cette émission, nous allons donc parler de théâtre, d'œuvres écrites pour la jeunesse et qui de mieux pour parler de livres que leur propre auteur-autrice. Aujourd'hui, pour notre troisième émission, nous vous proposons de rencontrer Suzanne Lebeau, autrice de la pièce « Souliers de sable » écrite en 2006 et publiée en 2007 par les éditions théâtrales. Avant toute chose, bonjour Suzanne.
Bonjour.
Oui, bonjour, vous nous entendez, c'est parfait. Afin d'introduire cet entretien, je vous poserai une première question avant de vous laisser la parole à vous et à Marie Bernanos qui m'accompagne dans cette émission. Nous finirons par une question posée par les élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école Mi-Plaine à Mélan. Alors, avant de parler de la pièce, parlons d'abord de vous. Vous avez commencé en tant que comédienne et vous êtes depuis de nombreuses années une autrice reconnue à l'international de théâtre jeunesse. J'aimerais tout d'abord vous interroger sur ce qui vous a motivé à écrire du théâtre jeunesse pour la première fois. On vous écoute.
Écoutez, d'abord, j'étais comédienne pour adultes. Et une journée, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré le public des enfants qui m'a bouleversée parce que ce public-là me posait des questions à laquelle je n'avais jamais de réponse. Et d'un spectacle à l'autre, j'avais toujours besoin de rencontrer les jeunes filles. Donc, j'ai joué d'abord pour les jeunes publics et je me rendais compte de la moralité, du moralisme, du peu d'intérêt, des mots qui leur étaient offerts. Je trouvais les textes insignifiants, je les trouvais sans substance et je trouvais la langue des enfants extraordinairement vivante, intelligente. Alors, je me suis mise à écrire pour eux.
C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'écriture de votre première pièce, du coup ?
La première pièce de moi ?
Oui.
Ou la première pièce ? Non, je vais plutôt vous parler de la première pièce dans laquelle j'ai joué, parce que je dois quand même justifier ce que j'appelle la morale, ce qui me semblait un discours tellement banal qu'on offrait aux enfants. Je faisais une fée des anges qui venait sauver les enfants de mauvais sorts qu'une mauvaise fée leur avait jetés parce qu'ils avaient désobéi à leurs parents. Et je leur disais, c'était les mots de la réplique telle quelle, vous ne devrez plus jamais désobéir à vos parents. Et tous les jours, j'allais rencontrer les enfants dans les classes d'école, dans les cours de récréation, partout, et ils me parlaient de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils voulaient voir, et leur parole était une parole riche, vivifiante, pleine de curiosité, pleine de questions, pleine d'intérêt pour le monde, pour leur petit monde à eux et pour le monde beaucoup plus grand dans lequel ils s'inscrivaient.
Et du coup, est-ce qu'on peut maintenant entendre le pourquoi de la première pièce écrite, même si on a compris qu'effectivement c'était pour contrebalancer par rapport au nombre de pièces écrites avec une morale. Et du coup, quelle est la première motivation à... Ouais, je vous écoute.
J'ai écrit la première pièce pour le théâtre pour lequel on jouait. Et comme c'était un théâtre qui faisait appel à la participation des enfants, je l'ai écrite, bien sûr, en faisant appel à la participation des enfants. Mais la participation des enfants dans le spectacle, dans le texte que j'ai écrit moi, elle était absolument nécessaire. dramaturgiquement, le texte ne pouvait pas se dérouler, l'action, le spectacle ne pouvait pas avancer si les enfants ne prenaient pas une part active et intelligente à l'action. Alors, le texte a été refusé, je me suis mise à réécrire, et plus j'écrivais, et plus j'inscrivais la participation comme étant absolument nécessaire au déroulement dramaturgique de la pièce. Et plus les écoles s'éloignaient des méthodes actives, et je me suis rendu compte que les enfants n'avaient plus la préparation nécessaire pour pouvoir dire de manière à la fois sensible selon le contexte et en prenant des risques parce qu'ils ne connaissaient pas la réalité dont on leur parlait. Donc, tranquillement, j'ai arrêté la participation. Je me suis servi, si vous voulez, de la participation des enfants lors du dernier texte que j'ai écrit où il y avait le flashback « Une lune entre deux maisons » et c'est le dernier moment où il y avait une ouverture sur le public.
Eh bien, très bien. Merci pour ces premières réponses à ma question. Du coup, on va rentrer dans votre travail et plus précisément dans votre pièce « Souliers de sable » qui fait partie de notre sélection cette année. Nos auditeurs et auditrices vont pouvoir écouter l'introduction de la pièce. Nous sommes dans la chambre de Léo et Élise. Ta ta ta.
Le théâtre, ça s'écoute ?
Premier sablier, Léo se réveille. Dans la chambre, le silence du sommeil et la pénombre. Le soleil monte. Le réveil matin sonne. Si on peut appeler sonnerie le bruit amplifié que fait le sable dans le sablier quand il le laisse filer ses derniers grains. Léo se réveille. Se répétant la phrase qu'il entend quand il émerge du sommeil.
Bonjour Léo. Tu as bien dormi ?
Se répondant à lui-même.
Oui, j'ai bien dormi.
Reprenant le discours d'Élise qu'il entend chaque matin.
Il est temps de te lever. Un sablier a coulé ! Élise !
Silence.
Élise ! Tu dors ? C'est toi qui te réveille, la première toujours, et qui dit. Bonjour Léo, tu as bien dormi ? Et sans me laisser ouvrir les yeux, tu dis « Il est temps de te lever. »
Il se lève, se rend au lit d'Élise et le regarde dormir. Intrigué, regarde le sablier.
Château de verre sur la montagne, sous le ciel.
La nuit est terminée. Le dernier grain de sable a coulé.
Il s'approche d'Élise qui rêve à voix haute.
Le soleil se repose sur la tour la plus haute.
Dors sur la montagne qui a l'air si jolie. Aujourd'hui, je vais commencer la journée tout seul. D'abord, vérifier si la nuit n'a pas oublié des traces de...
Il regarde sous son lit et prononce le mot cauchemar à mi-voix en faisant sonner chacune des syllabes comme si elle contenait un danger.
De... cauchemar ? Un mouton.
Il sort un petit mouton qu'il met sur une table au-dessus de son lit.
Un verre de lait et un biscuit. Pas de trace de mauvais rêve.
Il regarde sous le lit d'Élise.
Une plume d'oiseau !
Léo ramasse la plume quand Élise se met à grogner. Il se dirige vers le pied de son lit. Il s'habille, met tout ce qu'il y trouve, étouffe, mais garde les vêtements.
Prendre froid « C'est terrible !» dit Élise. « Une couche par-dessus l'autre, jusqu'au bout des doigts !»
Il se rend compte qu'il n'a pas ses souliers.
« Marcher sur les bas ne se fait pas !» dit Élise. « J'ai des bas dans les pieds, mais les souliers sont dans la cage !»
Élise dort profondément. Léo se dirige vers la cage qui est recouverte d'une robe de nuit. Il défait les boutons avec une belle concentration et enlève la robe de nuit. La lumière réveille les souliers qui se mettent à gazouiller.
Chut, chut, chut ! Vous allez réveiller Élise ! La cage est fermée, à clé. Et je n'ai pas la clé. Élise.
Léo, montrant Élise qui dort, fait aux souliers un signe d'impuissance. Les souliers gazouillent de plus en plus fort. Léo prend la clé cachée sous l'oreiller d'Élise, la caresse, ouvre la porte de la cage avec un plaisir évident. Il n'attrape pas à temps les souliers qui se mettent à voler de tous côtés, comme des oiseaux enfin libérés. Les souliers volent, frappent à la fenêtre et la porte de dehors. Reviennent narguer Léo et repartent de plus belle. Léo retourne à Élise avec inquiétude. Il est partagé. Il ne veut pas que les souliers la réveillent et ne veut pas ouvrir la porte.
« Je ne peux pas ouvrir la porte de dehors. Vous êtes des souliers de maison, pas des souliers de gazon. »
Les souliers insistent, font un joyeux vacarme. Léo essaie de les rattraper, court derrière, essoufflé, affolé, en lançant des « chut » inquiets. Il jette un œil à Élise qui dort toujours, ne résiste plus et ouvre la porte. Les souliers sortent aussitôt. Léo, sur le seuil de la porte, hésite.
« Revenez tout de suite !»
Les souliers disparaissent.
« Vous allez vous perdre !»
Léo les suit, laissant la porte ouverte derrière lui.
Tiens ton souffle si tu peux. Ne t'arrête pas. Thank you.
tout de suite les questions, les réponses.
Je laisse la parole à Marie Bernanos qui a une première question.
Oui, alors, chère Suzanne Lebeau, donc les enfants et les jeunes qui participent au comité de lecture cette année vont donc lire et ont commencé à lire Souliers de sable. Et donc, je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse un petit peu partager l'origine de cette pièce, comment elle est venue, et puis quel est le lien ou quels sont les liens entre ce projet de pièce et l'imaginaire des éléments que l'on a senti à l'œuvre et qui a fait donc que nous l'avons sélectionnée pour cette année. Donc comment cette pièce est-elle née et quelle relation à l'imaginaire des quatre éléments ?
C'est drôle Marie parce que juste en écoutant la question, je pouvais déjà imaginer très bien le lien entre la pièce et les fameux éléments, c'est-à-dire de cet imaginaire. La pièce est née de l'observation que je faisais, de la protection dont on entoure les petits. Une protection qui est devenue tellement obsessive, presque maladive. Les petits sont... Je repense à un épisode, moi, qui me bouleverse toujours. Je sais qu'au Québec, un bébé naissant ne peut pas sortir de l'hôpital si les parents n'ont pas monté le siège pour bébé et montré comment ils l'attachent. Il y a un tel degré de protection. Je regarde tous les couloirs scolaires, dans les rues qui sont entourés de cônes oranges, de brigadiers scolaires. Et c'est devenu, l'enfant n'apprend plus à traverser la rue avant d'avoir 20 ans. Il ne sait pas faire les gestes les plus simples qu'on a pu faire la fois. Et contre ici, je regarde de l'autre côté, tous ces éléments dont on parle, la terre, l'air, la terre, hein, le feu, l'eau, qui peuvent être dangereux, peuvent aussi être des lieux de liberté, peuvent être des très, très grands lieux de liberté. Ils sont toujours actifs où que nous allions et sans eux, nous ne pouvons pas.
Oui, merci beaucoup pour cette réponse, c'est très intéressant. Et alors du coup, on pourrait, je pense, s'interroger sur ce qui me semble vraiment très important dans cette pièce, c'est le double symbole des souliers et du sable. C'est presque, me semble-t-il, un peu à l'opposé l'un de l'autre. Comment tout ça a fonctionné dans la construction de la pièce ? Comment l'imaginaire des souliers, du chemin, et puis du sable, donc du temps, comment tout ça s'est mis en place dans l'écriture de la pièce ?
J'avoue que je n'ai jamais été... saisi par un problème de construction au niveau des souliers et du sable. Pour moi, les souliers sont à la fois cette protection qu'on nous impose et en même temps cette liberté d'aller où on veut. C'est très, très étonnant parce que tous les symboles et tous les signes sont toujours contradictoires, bien
oui.
sûr.
Oui.
Le sable, je sais bien sûr que le sable est le lieu où moi, je vais marcher pieds nus. Toujours. Le sable est un lieu bienveillant pour le corps. Mais en même temps, l'être humain le met dans un petit sablier qui compte le temps. Et le temps fait partie de toutes les contraintes qu'on impose, bien sûr, aux adultes. On vit avec le temps et qu'on impose surtout aux enfants. Parce que les enfants et le temps ne vont, c'est-à-dire que les enfants habitent le temps d'une manière tellement libre, tellement naturelle, tellement. Le temps pour les enfants n'a pas de poids. Moi, je me rappelle d'avoir regardé un groupe de petits qui avaient 3 ou 4 ans dans une garderie chez nous. qui jouaient dans une flaque d'eau. Ils ont passé près de 3 quarts d'heure et je ne les ai jamais vus s'ennuyer. Ils étaient dans la flaque d'eau. Les enfants sont encore capables d'être dans le présent. Nous, les adultes, on est presque toujours dans le passé, par le souvenir qui nous ramène des moments, ou dans le futur, en imaginant ce qui va arriver bientôt. On a beaucoup de mal à être dans le présent, alors que les enfants sont pratiquement inscrits dans le présent. Et je trouvais ça magnifique. Je crois que j'ai opposé d'une certaine façon dans ma tête. Il y a beaucoup de réflexes de l'écriture qui sont involontaires. Moi, je dis toujours, l'écriture est un équilibre entre la volonté de dire quelque chose et tout ce qui est involontaire. Et je crois que dans le texte Souliers-Sable, l'involontaire a été beaucoup plus important que le volontaire. Le volontaire, c'était ma volonté de dire « Vous avez le droit de chercher la liberté. » Vous avez le droit de chercher à explorer. Et même si l'exploration pourrait être dangereuse, le danger fait partie de la vie. Alors voilà, ça c'était mon discours volontaire. Et je crois que le discours involontaire, ça a été de briser la prison, la prison de la sécurité, qui vient beaucoup avec la prison du temps contrôlé.
Oui, 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 je crois que les enfants seront sans doute très, très sensibles à ça dans leur lecture. Ça, nous le verrons quand nous saurons un peu quelles sont leurs réactions. Ta, ta, ta.
Le théâtre, ça s'écoute ?
Deuxième sablier. Élise se réveille enfin. Élise se réveille, s'étire paresseusement comme elle n'a pas coutume de le faire. Elle profite du soleil qui tombe sur son lit. Elle a bien dormi et pense avoir encore du temps.
J'ai rêvé un rêve exquis et si léger.
Elle parle à voix basse pour ne pas réveiller Léo.
J'avais le vent dans les cheveux. Je volais. Je m'approchais du soleil qui me caressait le bout du nez.
Le soleil étire un de ses rayons et lui flatte le visage. Elle réalise tout à coup que le soleil lui réchauffe vraiment le visage. Elle ouvre les yeux, se lève d'un bond. Jette les couvertures par terre. Regarde le sablier avec angoisse et le retourne précipitamment.
Un sablier a coulé.
Élise ramasse ses cheveux avec un ruban.
Un sablier a coulé. C'est l'heure de l'orange et de ses vitamines.
Très tendrement.
Bonjour Léo. Tu as bien dormi? Il est temps de te lever.
Elle ne reçoit pas de réponse et court au lit de Léo. Elle le découvre vide. Fait le tour de la chambre en 4 pas. Aperçoit la cage vide. Et la porte de la chambre grande ouverte. Elle s'empresse de la fermer et s'appuie sur la porte de toutes ses forces.
Léo est dehors, dehors! Il ne connaît pas les pierres qui font tomber, il n'a jamais croisé des visages inconnus, ne sait pas traverser la rue, il va se perdre.
Élise court au grand livre du dehors. Elle cherche le mot perdre.
Perdre, cesser d'avoir quelque chose. Perdre quelque chose arrive tous les jours. Se perdre est grave.
Elle empile dans un sac les oranges, une trousse de premiers soins, ses vêtements accrochés à un porte-manteau et le grand livre du dehors.
« Attends-moi, Léo, je viens te chercher. Ne bouge pas, j'arrive. »
Elle hésite devant la porte, tourne la poignée sans conviction, se ravise, court chercher le sablier qu'elle s'attache au cou.
« Si je compte bien les sabliers, on peut revenir avant le 12e, et le marchand de sable ne saura pas qu'on est sorti. »
Elle tourne la poignée, ouvre la porte de quelques centimètres et la referme aussitôt.
Dehors, il y a les microbes et les épidémies. Le loup qui épie, la nuit dans la forêt, j'ai peur.
Elle ouvre la porte sans s'engager. Elle entend le rire de Léo.
Léo, c'est toi ?
On entend au loin la voix de Léo.
Élise ! Dépêche-toi ! Le vent m'emporte !
Dis au vent de se calmer.
On entend de très loin la voix de Léo.
Le vent m'entraîne !
Pour la deuxième fois, le sable du sablier marque le temps. Élise fait 2 nœuds avec le ruban qui retient ses cheveux. Elle compte à voix haute.
1, 2, 2 sabliers ont coulé. C'est l'heure de se laver les mains.
Élise disparaît.
Ne bouge plus, j'arrive.
Est-ce qu'on peut aussi évoquer un petit peu la question de la relation au grand livre ? Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que c'est une thématique un petit peu récurrente dans vos pièces, la relation à la lecture, à l'écriture. Je pense au bruit des eaux qui craquent et à d'autres pièces aussi. Comment s'est mis en place cette symbolique, enfin c'est plus qu'une symbolique, c'est aussi quelque chose de très concret. Enfin en tout cas, comment s'est mis en place ce grand livre ?
Le grand livre représente pour moi toutes les interdictions. Mais comme tous les symboles, comme tous les objets, je crois, de notre vie, le livre est à la fois, n'est jamais neutre. Il peut être un ami, oui, il peut être un ennemi. Le appris beaucoup de choses à Élise et à Léo. Et ils s'en sont servis pour apprendre, ce qui est formidable. Mais le grand livre leur apprend aussi des choses qu'ils doivent apprendre par eux-mêmes à discuter. Et c'est la même chose, je crois, puis présentement, dans l'époque dans laquelle on vit, je veux dire, on sait très bien qu'on n'a pas le choix de développer un esprit critique par rapport à tout ce qu'on lit, par rapport à tout ce qu'on veut nous inculquer. Il faut absolument rester ouvert. Il faut savoir, moi c'est drôle parce que ça me rappelait beaucoup quand je parlais du grand livre et quand je parlais d'aller dehors et d'écouter. Ma petite fille qui avait 5 ans, extrêmement rapide, je gardais mes deux petites filles. La première, extrêmement rapide, s'était brossée les cheveux, était descendue et s'était retrouvée dehors, la porte fermée à clé. Un peu inquiète, elle ne connaît qu'une chose, le numéro de téléphone de son père. Donc, elle appelle un étranger, elle lui demande si elle peut utiliser son téléphone et elle appelle son père pour lui dire qu'elle est enfermée dehors. Son père m'appelle, « Monsieur incroyable, tu n'es pas capable de garder deux enfants en même temps, de ne pas l'acheter. » Il me dispute très fort. Je vais chercher Adèle dehors. Adèle revient et 10 minutes plus tard, elle me dit, « Mais tu sais, grand-mère, j'ai parlé à un inconnu et il était très gentil. » Elle venait de découvrir que tout ce qu'on lui raconte, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui donne comme consigne de vie, tu ne parles jamais aux inconnus, tu ne vas pas aux inconnus, avait une part de vérité et une part qui se discute. Elle était complètement, mais je lui ai dit, bien sûr, elle, 99,9% des fois où tu vas parler à un inconnu, il va être gentil. Il faut simplement que tu développes ton sixième sens, cette espèce de sens caché en nous qui nous dit où il y a un inconnu qui peut nous faire du mal. Mais je crois que les couches de surprotection qu'on impose aux enfants leur permettent ouvrir, j'appelle ce sixième sens.
Peut-être faudrait-il, pour que les auditeurs qui n'ont pas lu la pièce comprennent bien ce que nous sommes en train d'entendre, peut-être faudrait-il simplement raconter un peu quelle est la trame de la pièce.
Ah, bien sûr, ils ne le savent pas déjà. Oui, la trame de la pièce,
oui.
Et Léo et Élise sont deux personnages sans âge. Ils peuvent avoir 25 ans comme ils pourraient en avoir 75. Ils sont enfermés dans une chambre où ils vivent comme en base absolument clos sans avoir le droit de sortir. Chacun a des souliers et les souliers sont enfermés la nuit dans une cage parce que les souliers ont perpétuellement cette envie d'aller découvrir le monde du dehors, qui est un monde plein de dangers. Tous les jours, Léo et Élise ont un programme qu'ils doivent réaliser à heure fixe, un programme que leur indique le sable du sablier qui coule heure après heure pour leur dire « il est 10h, il est 11h, il est midi, c'est l'heure de, il est 1h, 13h, c'est l'heure de, il est, voilà, et l'heure de se coucher. » Et une journée, Léo se réveille avant Élise, il veut lui faire une surprise, alors il libère les souliers de la cage, et Élise qui dort toujours, Léo qui ne veut pas la réveiller et les souliers qui font de plus en plus de bruit, alors Léo ouvre la porte du dehors et les souliers s'enfuient. Léo s'enfuit derrière les souliers. Quand Élise se réveille, elle constate que Léo est parti, que les souliers sont partis. Alors elle prend le grand livre et regarde ce qu'elle doit faire. Elle arrive à un petit ruisseau Et le grand livre lui dit que les ruisseaux sont dangereux, qu'on peut se noyer, bon, etc., etc. Voilà, c'est comme ça.
Oui, mais je pense que c'est intéressant d'entendre effectivement le déroulement de la pièce pour bien comprendre le rôle du rapport à l'interdiction et comment cette pièce, d'une certaine façon, est un peu une fable sur la prise d'indépendance d'un enfant, la découverte de l'autonomie.
Oui, la découverte de l'autonomie, mais je dirais beaucoup plus aussi. La découverte de l'autonomie, la découverte de sa propre pensée critique, mais aussi la découverte de la beauté du monde. Parce qu'on nous présente toujours le monde comme un lieu de danger. On présente toujours le monde aux enfants comme un lieu où tout est dangereux. Alors que non, le monde est un lieu de beauté, un lieu où normalement l'être humain, le petit, devrait être heureux. Le petit devrait être heureux de sortir. Et c'est... Non, je trouve ça très étonnant. C'est une nouvelle philosophie et je lisais, il n'y a pas si longtemps, peut-être une année ou deux, que dans certains parcs à Boston, ils ont remis des dangers dans les parcs pour enfants, parce qu'ils se sont rendus compte que les parcs étaient devenus tellement sécuritaires que les enfants n'apprenaient même plus à contrôler leur propre force physique ou leur propre faiblesse, parce que se découvrir soi-même, on ne peut le faire qu'au contact d'un autre ou qu'au contact d'obstacles.
Oui,
parce que les enfants sont très importants.
Ça correspond à quelque chose que les sociologues ont développé récemment, ça vient du Japon, mais pas seulement, sur ces enfants et ces jeunes qui, en fait, ne sortent plus et restent dans leur chambre, dans leur lieu de vie, sans sortir.
Ouais. Même finalement, peut-être une pièce japonaise.
Oui, tout à fait, oui, exactement.
Le lieu clos de la chambre.
Je crois que les sociologues, justement, parlent des enfants chambres, enfin, ou des enfants en chambre, je crois. Alors, ça peut nous emmener, justement, vers une autre question, qui est celle de l'émancipation. Il se trouve donc que Théâtre à la Page va organiser le 1er juin son festival bisannuel, le festival Tapageur, mais lors de cette journée, nous aurons un temps d'échange et de discussion réunissant un certain nombre de professionnels du théâtre en direction de la jeunesse. Et la question qui nous occupera sera celle de l'émancipation. Est-ce que l'on pourrait savoir, Suzanne, comment le théâtre que vous avez construit peut relever d'une forme d'émancipation? Comment il s'inscrit dans ces questions-là?
Je suis certaine que oui. Je suis certaine, bon, je suis une passionnée de l'éducation. Et c'est drôle, parce que tantôt, vous m'avez parlé d'un élément extrêmement important, le livre, et je l'ai esquissé un peu. Je me rends compte que j'en ai parlé, mais sans jamais aller au bout de l'idée. Mais l'émancipation, pour moi, passe bien sûr par l'exploration, on le voit très bien. L'enfant, jusqu'à 5 ans, apprend de manière incroyablement quotidienne, par mimétisme, par observation, par expérimentation, par essai-erreur, et sans arrêt, il teste les limites des gens, il teste les limites des choses, des lieux. Et il s'aventure toujours un peu plus loin et c'est un peu plus... Moi, ça me bouleverse de voir tout ce que l'enfant apprend. Et tranquillement, l'enfant apprend à lire. Et je me rends compte que c'est fou, on ne donne pas aux enfants la passion de la lecture. Moi, je travaillais dans un cercle de devoirs et je regardais les petites premières années. Je travaillais avec les tout-petits qui apprennent à lire. Et je leur disais, mais te rends compte, quand tu vas savoir lire, tu vas être libre. Tu vas aller dans la rue, tu vas pouvoir lire le nom des rues, tu vas pouvoir lire le nom des boutiques, tu vas pouvoir lire tout ce que tu vois, toutes les affiches, tu vas pouvoir les lire. Il me regardait et il me disait, mais c'est vrai. Et ils avaient le goût de lire. La lecture, l'écriture, je repense à Salvador, tout petit, qui va trouver un métier parce qu'il a appris à lire et à écrire. Il a appris avec ses frères et sœurs plus vieux qui apprenaient à lire et à écrire. Je pense à Logrelet. Logrelet, aussitôt qu'il va à l'école, est obligé, découvre et est obligé de faire face à sa véritable nature. Et faire face à sa véritable nature, c'est-à-dire à la fois l'accepter et apprendre à composer avec cette nature. Bon, j'en sais quelque chose, moi aussi, même à 60, presque 15 ans, je suis obligée d'apprendre à composer avec une nature un peu radicale. Mais apprendre à composer avec sa nature, c'est, ça ne peut se faire qu'au contact des autres et qu'au contact du monde. Donc, il faut sortir de soi. Il faut sortir de soi. Et il y a beaucoup de moyens, dont, d'après moi, bien sûr, l'éducation est le principal. J'adore les écoles et j'adore les maîtres qui sont capables d'ouvrir les enfants à des champs de connaissances qu'ils ne soupçonnent même pas.
Oui, je...
Parce que non, on voit beaucoup, beaucoup de choses, mais bien sûr que le maître peut les amener sur beaucoup d'autres chemins qu'ils ne soupçonnent pas.
Nous réagissons très fort à ces propos parce que j'imagine ce que vont ressentir les enseignants qui pourront écouter ce propos, mais aussi les enfants. Et je trouve que c'est une belle façon de prolonger la réflexion qui était la nôtre avant sur la pièce. Alors je redonne la parole à Maïlys qui va conclure avec une question venant d'enfants justement.
Justement, nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien et pour conclure, j'aimerais vous transmettre la question des élèves de CM1, CM2 de l'école Mi-Plaine à Mélan, qui, je pense, on a déjà un peu répondu à cette question au tout début de l'entretien, mais elle est un peu formulée différemment. Les enfants vous demandent pourquoi Léo et Élise utilisent un sablier pour mesurer le temps et précisément cet objet-là qu'ils ont tous dans les classes, comme à chaque fois où nous avons présenté votre pièce, ils ont tous eu le bonheur de présenter un sablier qu'ils avaient dans leur placard. Donc voilà, pourquoi exactement le sablier pour mesurer le temps ?
Parce que le sablier, pour moi, déjà, le sablier... L'horloge, bon, c'est un moyen, mais un technique beaucoup plus contemporain, bien sûr. Le sablier, pour moi, pouvait se casser facilement. L'horloge, bon, probablement quelque chose qui se casse facilement, mais demande beaucoup de violence. Alors que le sablier peut se casser extrêmement facilement par mégarde. Et tout ce qu'elle fait, Élise, c'est qu'elle le sert un peu trop et le sablier se casse. Alors, voilà pourquoi j'ai choisi le sablier. Et le sablier, de toute façon, est un symbole absolument universel du temps. Et il vient de cultures très anciennes. Il est aussi, il a une importance symbolique aussi forte que les quatre éléments. Les quatre éléments et le sable dans le sablier sont des symboles, des archétypes que toutes les cultures possèdent et bon, que toutes les cultures, peut-être pas toutes pour le sablier, parce que toutes les cultures, je ne sais pas si toutes les cultures ont calculé le sable de manière aussi précise que faisait le sablier, mais le sable dans le sablier me semblait terriblement important parce qu'on pouvait le voir. Quoi qu'on peut voir l'horloge. On peut voir l'horloge, mais même à ça, les horloges ont plus d'aiguilles, les horloges ont plus de numéros, ils ont des aiguilles, mais plus de numéros. C'est-à-dire, le symbole de l'horloge fluctue beaucoup trop présentement.
Eh bien, merci beaucoup pour cette dernière réponse qui est très précieuse. Merci Suzanne pour vos réponses. Nous arrivons à la fin de notre troisième émission de Tap 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 qui est là sur Radio Campus Grenoble. J'espère que cette émission vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un entretien avec Marie Bernanos. Je vous donne rendez-vous le mardi 18 avril à 10h30 sur la 90.8 ou n'importe quand et à n'importe quelle heure en podcast. C'était Marie Bernanos et Maëlys Gignier pour Théâtre à la Page.
Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Tap tap tap, ta la la 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 tap tap tap.
Tap, oh mais tap,
taisez-vous,
tap si je veux.
Qui là?
C'était Théâtre à la Page.